commerçants d'Europe, Juliette Rangeval.
Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde.
C'est la voix d'un homme qui aura entretenu une relation contrastée avec l'Europe tout au long de sa vie politique. Paradoxal, il était aux affaires à tous les grands moments de la construction européenne. Jacques Chirac, ancien président de la République française de 1995 à 2007, mort aujourd'hui à 86 ans.
Cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.
C'est un numéro un peu spécial d'Accent d'Europe que nous vous proposons aujourd'hui avec Jean-Louis Bourlange comme grand témoin, député européen de 1989 à 2007. Il a souvent côtoyé Jacques Chirac. Frédéric Lebel l'a rencontré, il se souvient.
Jacques Chirac est fondamentalement pragmatique sur le plan européen. C'est quelque chose de second, voire de secondaire pour lui, par rapport à sa stratégie nationale. En même temps, comme c'est un enjeu très important, il se retrouve à tous les carrefours de l'Europe. Et là, ce qu'on voit, c'est que il n'est pas à l'origine, il n'est pas à l'initiative. Quelquefois, quand il est dans l'opposition, il s'oppose, comme au moment de l'appel de Cochin. Mais en revanche, quand il est au pouvoir, il assume. Il est COP, ce n'est pas un homme d'initiative, c'est un homme de responsabilité. On voit bien que, en réalité, Jacques Chirac, c'est un radical socialiste, au sens plein du terme. Edgar Faure disait des radicaux, la vocation d'un radical, c'est d'être au gouvernement. Et je dirais que la vocation de Jacques Chirac, c'est d'être au gouvernement, et quand il est au gouvernement, de faire le travail.
Ça, ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre.
Ce qu'il aura défendu avec le plus de ferveur, ce sont les agriculteurs. Jacques Chirac ne ratait pas un salon de l'agriculture.
Les éleveurs français sont devenus certainement actuellement les meilleurs du monde, et toutes les races que nous voyons ici aujourd'hui en témoignent amplement. Je crois que personne ne peut le contester.
Jacques Chirac, le corrézien, chaleureux, soucieux de chacun, c'est ainsi que s'en souvient Marianne Monchamp, l'ancienne secrétaire d'État corrézienne comme lui.
Il avait la France en intraveineuse. Il captait par toute sa sensibilité le pays réel, les agriculteurs, les paysans, les gens qu'on n'entend jamais. Il avait cette espèce de contact immédiat, ça commençait par une poignée de main, une manière d'être. Quand on parlait avec Chirac, on avait l'impression d'être important. On avait l'impression que ce qu'on lui disait, tout simplement, il l'intégrait.
La politique européenne de Jacques Chirac est une politique agricole. Au poste de Premier ministre ou plus tard de président, c'est d'abord cela qu'il vient défendre à Bruxelles avec beaucoup de mordant. C'est un homme de coup de gueule, de déclaration choc sur tous les sujets. Une anecdote notamment assez crue résume le Jacques Chirac des sommets. C'est en 1988, il est Premier ministre et parle de la chef du gouvernement britannique Margaret Thatcher. Jean-Louis Bourlange.
Je crois qu'on peut le dire à l'antenne. Il dit « Mais qu'est-ce qu'elle veut encore, la ménagère ? Mes couilles sur un plateau ?» Et alors, il croyait évidemment parler à son conseiller, mais les micros étaient restés branchés. La dame de fer était furieuse.
Bref, Jacques Chirac a laissé un souvenir durable à Bruxelles, où nous retrouvons notre correspondant Pierre Benazet. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Jacques Chirac était connu pour son franc-parler. Est-ce que ça faisait de lui un féroce négociateur dans l'enceinte des sommets européens ?
Alors en tout cas, ce que ses partenaires européens estimaient la plupart du temps, c'est qu'ils se laissaient pas marcher sur les pieds. Et ça n'a pas toujours été très facile pour eux d'ailleurs. Par exemple, il y a eu la négociation sur la première présidence de la Banque Centrale Européenne. Et ça, c'était en 1998. On avait établi des règles très claires. Les présidents de la BCE, ça devait être 8 ans. Et puis Jacques Chirac a menacé de mettre son veto contre le candidat essentiellement de l'Allemagne, il faut bien le dire, Wim Duisenberg, parce que lui, il voulait Jean-Claude Trichet. Finalement, il y a eu une sorte de feuilleton assez difficile à gérer pour tous au sein de ce sommet. Et puis, ils ont décidé que ça serait des demi-mandats, un de 4 ans pour Duisenberg et puis un autre de 4 ans pour Jean-Claude Trichet. Il a eu ce qu'il voulait. Et il hésitait pas à marcher un petit peu sur ses partenaires européens.
On se rappelle, Pierre, de cette célèbre saillie également sur Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu'elle me veut de plus, cette mégère, cette ménagère, hein, les versions divergent.
Oui, les versions divergent et c'est probablement assez intéressant parce que c'est Jacques Chirac lui-même qui a bien été obligé de confirmer ses propos. Il avait oublié de couper son micro pendant cette réunion au sommet. C'est des propos qui sont évidemment rapportés, on les entend pas en direct. Il a dit « j'ai dit une mégère et pas une ménagère » parce qu'il devait penser à son électorat. Il a dit ça à Margaret Thatcher qui voulait encore des rabais, des discussions budgétaires assez compliquées. Les tabloïds britanniques ont titré qu'il était un peu ordurier, enfin même pas un peu, qu'il était ordurier. Mais c'est pas la seule occurrence, parce qu'il avait, il a recommencé une dizaine d'années après avec Tony Blair, qui réclamait d'être dans l'Eurogroupe, le Conseil des ministres des Finances de la zone euro, alors que le Royaume-Uni refusait d'être dans l'euro. Et là, la réponse de Jacques Chirac, c'est « est-ce qu'on va continuer longtemps à enculer les mouches ?» Vous voyez, il a jamais mâché ses mots. Et puis aussi des saillies qui sont pas forcément à sa gloire, comme par exemple en 2001, le Premier ministre suédois réclamait qu'une des agences européennes ait son siège en Suède, lui a demandé de lui confirmer que les Suédoises étaient jolies, et il lui a rétorqué « eh bien, vous avez qu'à ouvrir une agence de mannequins et vous attribuer son siège ». C'était pas toujours extrêmement... ça volait délicat. Pas toujours très haut, mais ça marchait, généralement.
Est-ce qu'on n'a pas vu, tout de même, au-delà de ces déclarations à l'emporte-pièce de ce personnage, est-ce qu'on n'a quand même pas vu apparaître un Jacques Chirac pro-européen au fil des années, Pierre ?
Ah bah en tout cas, c'est une il y a une rupture très nette avec l'appel de Cochin par exemple, ou alors par la suite, même jusqu'au début des années 90, où il se disait hostile au plan de l'euro pour la monnaie unique, alors que finalement il a beaucoup porté l'euro quand il était président. On lui a reproché un peu une forme d'immobilisme sur la PAC, une attitude pas forcément très européenne dans les négociations, mais finalement il a eu ce qu'il voulait, une réforme qui ménageait les agriculteurs français. Mais pour lui, le plus important, c'était clairement les relations personnelles, d'abord par exemple le couple franco-allemand avec Helmut Kohl, mais il y a eu ces problèmes sur l'affaire d'Eisenberg par exemple, et puis après surtout Gerhard Schröder, avec qui il était plutôt proche de 99 à 2005, et puis 2 ans à la fin avec Merkel, et on l'a vu souvent avec un verre de bière à la main, etc. Il aimait bien taper dans le dos des gens et avoir une relation personnelle avec eux. Il trouvait Berlusconi que c'était un type un peu bizarre, mais il disait ce qu'il pensait. Et finalement, on lui reprochait aussi ça, c'est qu'il était très partisan de la relation personnelle et du coup de l'intergouvernemental et pas forcément de la méthode européenne.
Pierre Benazet dans Accent d'Europe sur RFI. Dans le concert européen pour le député Jean-Louis Bourlanges, ce qui a particulièrement compté pour Jacques Chirac finalement, c'est la relation avec Berlin.
C'est un Européen pragmatique. Alors, il ne croit pas du tout aux institutions européennes. Il croit que tout ça, le Parlement, la Commission, tout ça, ça lui apparaît comme des choses pas du tout intéressantes. Ce qui est important, en revanche, pour lui, c'est le franco-allemand.
Pourtant, cette relation n'était pas toujours idyllique, notamment sur la politique agricole commune.
Il a toujours été sur cette ligne. Il s'est fait une solide réputation justifiée de défenseur de l'agriculture française dans les années 70, quand il était ministre de l'Agriculture du président Pompidou. Il a eu des polémiques très fortes avec son homologue allemand, mais ça n'a jamais été quelque chose de grave. Il a toujours été convenu entre l'Allemagne et la France qu'il y avait un accord, c'est-à-dire qu'on abaissait les frontières, ce qui était l'intérêt de l'économie allemande, le nôtre aussi d'ailleurs, parce que quand même on a toujours une industrie, une économie qui est quand même assez performante en Europe, et donc on avait plutôt intérêt nous-mêmes à sortir des frontières, mais qu'en contrepartie de cette ouverture des frontières, qui était quand même surtout avantageuse pour les Allemands, on faisait une politique agricole commune qui était protectrice des intérêts français.
Jacques Chirac a côtoyé 3 chanceliers au cours de ses 2 mandats. C'est avec Gerhard Schröder, le social-démocrate, qu'il a entretenu la relation la plus proche. Ce dernier lui a rendu hommage aujourd'hui à Berlin, Julien Méchaussy.
C'était un homme politique d'expérience, un Européen conscient de l'histoire, une personne attachante. Un hommage signé Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, a salué un homme devenu ami. C'est en effet sur l'initiative personnelle de Jacques Chirac, Gerhard Schröder était venu représenter l'Allemagne aux commémorations du 60e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. Ce geste avait profondément marqué l'opinion publique allemande. Via son porte-parole, Angela Merkel a également salué l'ancien président français, qu'elle qualifie de merveilleux partenaire et ami. Des hommages qui tranchent cependant avec les réactions des médias allemands. Car ici, dans un pays profondément pacifiste et opposé aux armes nucléaires, la décision unilatérale prise par Jacques Chirac en 1980 1995 de reprendre les essais nucléaires en Polynésie française avait grandement choqué. Et rares sont les articles qui n'en font pas mention le jour de l'annonce de son décès. À l'inverse, son discours historique prononcé à propos de la rafle du Veldiv, avec pour la première fois la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs, trouve encore aujourd'hui un écho dans le pays qui a vu naître le national-socialisme. Et s'il y a bien une chose sur laquelle les médias allemands sont à l'unisson, c'est à propos de l'image de bon vivant de Jacques Chirac. Son appétit pour la bonne chère, mais aussi la bière, avait largement contribué à ses bonnes relations avec un autre épicurien, Helmut Kohl, le chancelier de la réunification, encore au pouvoir lors de la première élection à l'Élysée de Jacques Chirac.
La bière, les femmes, à Londres aussi, on se souvient d'un Jacques Chirac bon vivant pour mieux servir ses intérêts politiques. Londres, où l'on retrouve notre envoyée spéciale, Béatrice Leveillé.
Le Guardian se souvient d'un maître dans l'art de la séduction politique qui charmait le public en serrant des mains et en tapant sur le cul des vaches. À propos des Britanniques, Jacques Chirac n'était pas tendre. Leur seule contribution à l'agriculture européenne a été la crise de la vache folle. « Comment peut-on faire confiance à des gens qui cuisinent aussi mal » disait-il. Les Britanniques lui sont malgré tout reconnaissants de s'être opposés à la guerre en Irak en 2003. Il souligne qu'il a également été le premier président à reconnaître l'Holocauste et la responsabilité de la France, à l'époque de la collaboration, dans la déportation de 76 000 juifs. Enfin, sur le climat, il disait en 2002 à peu près ce que Greta Thunberg dit aujourd'hui. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Accent d'Europe, la suite de notre émission spéciale consacrée à Jacques Chirac et à l'Europe après la mort de l'ancien président français. En 1992, le chef de file gaulliste rompt avec une partie du RPR et défend le oui au traité de Maastricht. Pragmatique, encore une fois, c'est sous son premier mandat que la France adopte l'euro le 31 décembre 2001, Alexis Bédu.
Le 1er janvier 2002, lors de ses traditionnels vœux aux Français, Jacques Chirac, la voix posée, le regard sérieux, tente de les convaincre que l'euro sera bon pour eux. Et pour cela, il ne manque pas d'arguments. Le premier d'entre eux.
L'euro va changer l'Europe. Et d'abord, les mentalités. Pour nous, Français, c'est une chance.
Le passage du franc à l'euro a-t-il changé les mentalités? A-t-il été une chance pour la France? Les avis sont partagés chez ses habitants de banlieue parisienne.
C'est une évidence. Il suffit de voyager un tout petit peu pour se rendre compte à quel point ça simplifie la vie.
Ça aurait dû en être une. Mais aujourd'hui, quand on regarde la situation de l'Europe, je suis pas sûr.
S'il n'y avait pas eu l'euro, je pense qu'on aurait été obligé de dévaluer de façon évidente vis-à-vis de l'Allemagne, notamment.
On est encore resté très franco-français, je pense. Moi, je trouve qu'on reste quand même un petit peu avec notre caractère et notre baguette de pain et notre petite bouteille de vin.
Selon un sondage réalisé l'année dernière, seulement 33% des citoyens français se déclarent en faveur de la sortie de la France de l'euro, mais ils jugent sévèrement la monnaie européenne concernant le pouvoir d'achat, notamment. C'était pourtant un des arguments de Jacques Chirac ce 1er janvier 2002.
L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas.
Et là, les Français croisés cet après-midi sont unanimes, ça n'a pas eu l'effet escompté.
Sur l'euro, ça va monter, ouais. Les prix plus bas, non. Surtout en plus.
Ah, nettement plus cher, bien sûr. En franc, quand on allait faire des courses, moi je me rappelle, j'en ai 63, et ben on avait quand même eu panier presque plein. Que maintenant, avec les euros, vous regardez dans votre caddie, vous n'avez pas grand-chose, monsieur.
C'est très cher.
Le pouvoir d'achat a certes chuté en France, mais depuis 2002, les prix à la consommation n'ont augmenté que d'1,4% par an, en moyenne. Une inflation inférieure à celle des 15 années précédentes. Le passage du franc à l'euro semble toutefois lointain pour ses passants. L'associe-t-il à Jacques Chirac?
Chirac a passé l'euro, mais en plus, j'avais compris que c'était lui qui avait fait l'euro.
Ben moi, j'aimais beaucoup ce président, mais moi, je pense que je me rappelais plus que c'était lui qui avait passé l'euro. Vous voyez, je suis un petit peu déçue.
Et pourtant, pour Jacques Chirac, l'euro était l'une de ses grandes réalisations. L'autre grand chantier européen de l'ancien président, c'était l'élargissement de l'Union européenne, Léa-Lisa Westerhoff.
Oui, très vite, Juliette. Après l'effondrement des régimes communistes, la droite française est globalement favorable à une ouverture aux pays de l'Est. Jacques Chirac s'inscrit donc dans cette tendance. Dès 97, il se dit très en faveur d'un élargissement de l'Europe. Il appelle à une intégration de la Pologne dès l'an 2000, dit-il. Il se fait aussi l'avocat des candidatures roumaines et bulgares. Autre signal destiné aux pays de l'Est, en 2000, la France, alors en charge de la présidence de l'Europe, choisit d'organiser un sommet européen à Zagreb, la capitale croate. Il faudra finalement attendre 2003 pour que la Pologne, tout comme 9 autres pays, signent le traité d'adhésion à l'Europe. Mais c'est en 2003 aussi que Jacques Chirac dérape. À la sortie d'un Conseil européen, il torpille ses nouveaux amis de l'Est d'une formule assassine, leur reprochant leur soutien à la politique américaine en Irak. N'empêche, jusqu'au bout, le président français a continué d'encourager l'élargissement de l'UE, y compris pour la Turquie.
Et justement, Léa Lisa l'évoquait, la pique de Jacques Chirac à destination des anciens pays du bloc de l'Est.
Ce n'est pas un comportement bien responsable. En tous les cas, c'est pas très bien élevé. Donc je crois qu'ils ont manqué une bonne occasion de se taire.
La phrase a résonné longtemps dans les oreilles des dirigeants des anciens pays communistes qui rejoignaient alors l'Europe. Explication à Prague d'Alexis Rosenzweig.
Certains d'entre eux faisaient déjà partie de l'OTAN à ce moment-là et leur empressement à suivre Washington sur le sentier de la guerre en Irak a été peu apprécié par Paris. Le chef de l'État les accusant également d'avoir, je cite, « été à la fois pas très bien élevé » et un peu inconscient du danger que comportait un trop rapide alignement sur la position américaine. En République tchèque, comme en Pologne et chez plusieurs voisins de la région, se voir faire la leçon d'une telle manière a laissé des traces et pendant de longues années, les diplomates puis les successeurs de Chirac à la présidence française se sont employés à faire oublier cet épisode qui forcément ne manque pas d'être rappelé dans les nécrologies publiées ce jeudi sur les sites d'information de Prague à Sofia. Manquer l'occasion de se taire n'était pas du tout une expression employée dans la langue tchèque avant la célèbre sortie acerbe du président français. Plus d'une quinzaine d'années plus tard, force est de constater que Jacques Chirac a tellement popularisé la formule qu'elle est régulièrement utilisée à Prague, au niveau officiel aussi, et notamment quand la tension monte dans les relations diplomatiques. Il y a quelques jours encore, un ministre tchèque, à cause de bisbilles avec Moscou, a déclaré qu'un ministre russe avait manqué une occasion de se taire, ce qui pourrait aujourd'hui être considéré comme une forme d'hommage à Jacques Chirac.
Pour Jean-Louis Bourlange, ce grand écart entre l'approfondissement de l'Europe via l'euro et son élargissement à l'Est, cela porte le germe d'une profonde crise européenne.
Tous les Européens des années 90, après la chute de l'Union soviétique, se sont engagés simultanément sur deux voies incompatibles. Un approfondissement qui était porté par le traité de Maastricht, qui impliquait un renforcement des institutions démocratiques, qui d'ailleurs était contenu dans le traité de Maastricht, et surtout une union monétaire qui exigeait une union économique, donc une politique budgétaire commune, donc un formidable resserrement des solidarités, et en même temps un élargissement sans frontières, à la fois du côté de l'Europe centrale, et là il y avait un accord général avec l'Allemagne notamment pour que ce que Jacques Rupnik appelle le cercle des Habsbourg, c'est-à-dire la Pologne, la République tchèque, la Tchécoslovaquie à l'époque, la Hongrie, rejoignent l'Union européenne, et Chirac était pour, a plaidé inlassablement pour que la Roumanie et la Bulgarie entrent, et au-delà, la conférence d'Helsinki, qui était la Turquie.
Cette crise d'identité européenne, elle va éclater en 2005, avec le non français au référendum sur le projet de constitution européenne, après une campagne électorale désastreuse.
En réalité, Chirac ne voulait pas de référendum. C'est l'ensemble des partis politiques qui disent qu'il faut absolument consulter les Français. Et là, il fait effectivement une campagne absolument lamentable, parce que il dit aux Français... il faut absolument une constitution pour nous protéger des Allemands. Alors, c'était un discours qui était complètement contradictoire. Soit on faisait confiance à nos partenaires et on construisait ensemble une véritable Union européenne, soit on s'en méfiait. Et alors, c'était un peu paradoxal de dire, faut pas qu'ils nous étouffent, on va l'embrasser. Enfin.
Jacques Chirac fera d'ailleurs son mea culpa lors de son dernier sommet européen en mars 2007.
Je suis désolé de peut-être ne pas avoir fait tout ce qu'il aurait fallu pour éviter ce qui a été une mauvaise chose pour l'Europe et pour la France.
Pour Jean-Louis Bourlange, finalement, le plus grand apport de Jacques Chirac, ce sont ses avancées sur la politique européenne de défense, mais il ne restera pas comme un grand dirigeant européen.
Il n'a jamais conquis ni les milieux bruxellois de la Commission, ni les milieux parlementaires. Mais même si on n'était pas d'accord avec lui, on l'aimait bien.
Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous nous retrouvez, vous nous réécoutez en podcast sur notre site RFI.fr ou sur les réseaux sociaux. À bientôt.